France Inter. Le 7-9.
Il est 7h47, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est haut représentant de l'Union Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
Oui, c'est le monsieur affaires étrangères de l'Europe qui est avec nous. Bonjour Josep Borrell.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin en direct du...
Merci à vous.
Merci, on est content de vous avoir particulièrement en ce moment, alors qu'il y a des tensions partout dans le monde. Vous êtes en direct du Parlement européen de Strasbourg. Alors d'abord l'Ukraine. Jusqu'à hier matin, à Washington, à Paris ou à Berlin, on évoquait une possible invasion russe de l'Ukraine. Cette semaine, certains disaient même ce mercredi, aujourd'hui. Mais hier matin, la Russie a ordonné le retour dans leur garnison de plusieurs unités déployées à la frontière avec l'Ukraine. Parlez-vous ce matin de sérieuses désescalades ?
Je pense que la visite du président Macron à Moscou a marqué la fin de l'escalade. Est-ce qu'on peut dire que c'est le début de la désescalade ? Oui, peut-être, il faut voir. Je pense que la Russie a joué avec le froid et le chaud. Un jour, on nous dit que tout est possible, qu'il va revenir à la table de négociation. L'autre jour, il envoie une escadre en mer Noire. Donc, il faut être préparé pour négocier, si on le peut. C'est ça qu'on souhaite, c'est ça qu'on cherche. Mais aussi, un exercice de dissuasion si la négociation n'est pas possible.
Vous disiez la semaine dernière, Josep Borrell, nous vivons assurément le moment le plus dangereux pour la sécurité en Europe après la fin de la guerre froide. Est-ce que vous le dites encore ce matin ?
Oui. Sans doute. Il y a des signes encourageants. Peut-être, il faut les vérifier. Mais de notre côté, on a aussi des signes préoccupants, parce que le fait que la Douma, le Parlement russe, ait voté une proposition pour demander au président Poutine qui déclare, qui reconnaisse l'indépendance comme étant indépendant de néo-république indépendante en Ukraine, ça penche du mauvais côté.
Joe Biden a dit cette nuit qu'une invasion reste tout à fait possible en Ukraine. Vous le dites donc vous aussi, si on vous écoute ce matin.
Possible. Personne ne sait qu'est-ce qu'il peut se passer. Je pense que même pas le président Poutine le sait.
Ah oui ?
Je vous dis, il joue avec le chaud et le froid. Un jour, nous disent qu'il y a de l'espoir, qu'il veut rentrer à la table de négociation. Et de l'autre jour, il prend des décisions comme celle-ci que la Douma a votée.
Oui.
Et en même temps, le déploiement militaire... on dit qu'on le diminue, que les exercices sont finis en Biélorussie, c'est bien, mais il faut rester vigilant parce que il y a sans doute un exercice d'intimidation. On masse pas plus de 100 000 soldats fortement armés dans la frontière d'un pays dont, de notre côté, vous dites qu'il ne devrait pas être un pays indépendant sans qu'on ait beaucoup de raisons pour se préoccuper. Et dans l'Europe du XXe siècle, il faudrait absolument s'interdire d'utiliser l'intimidation militaire comme une façon d'argumenter.
Vous dites Vladimir Poutine joue le chaud et le froid, mais Joe Biden, il joue quoi, Josep Borrell ? Quand il dit on empêchera le gazoduc Nord Stream 2 si les Russes envahissent l'Ukraine, est-ce qu'il ne jette pas de l'huile sur le feu ?
Si les Russes, par malheur, envahissaient l'Ukraine, est-ce que vous croyez que le problème, ça serait le Nord Stream 2 ? Le problème, ça serait l'approvisionnement des gaz pour l'Europe. Nord Stream 2 ou pas Nord Stream 2, ça serait l'ensemble des gazoducs qui seraient mis en question.
Donc vous pensez qu'il n'y aura pas de gazoduc Nord Stream 2 si les Russes lancent une offensive, vous dites comme Joe Biden ?
Si, il y a une offensive dans le sens... pleinement militaire du terme, style Deuxième Guerre mondiale, je vous dis, le problème, ça ne sera pas le Nord Stream 2. Le problème, ça sera que nous recevons les 40% de nos gaz dans l'ensemble de l'Europe, de la Russie. Et tout ça serait mis en question, évidemment.
L'actualité se fait en direct, puisqu'à l'instant, selon le ministère russe, la Russie annonce la fin des manœuvres et le départ des forces de Crimée. Y voyez-vous un deuxième signe de détente, là, ce matin ?
Si c'était vrai, sans doute.
Vous dites qu'il faut vérifier, c'est ça ?
Il faut toujours vérifier.
Vous n'y croyez pas, en fait ? Vous ne croyez pas à la parole de Poutine ?
Vous savez, dans mon métier, le problème, c'est pas croire ou ne pas croire. On n'est pas dans la théologie. On est dans la réalité de la politique.
Alors justement, dans la réalité de la politique, vous dites on est prêt à négocier. Qu'est-ce que l'Europe est encore prête à négocier ? Est-ce qu'il y a quelque chose de négociable sur la future sécurité russe ? Puisque c'est ça qu'il demande, Vladimir Poutine. Il dit « je veux être en sécurité ». Est-ce qu'il y a quelque chose encore à lui donner ?
Il y a des choses sans doute à négocier parce que sans doute la Russie a des préoccupations pour sa sécurité. Sans doute, l'architecture de la sécurité en Europe, il faut la revoir. Les accords d'Helsinki sont de 1975, c'est-à-dire un demi-siècle. L'Union soviétique existait encore. Et depuis, il a beaucoup plu. Et on n'a plus une structure de sécurité par rapport aux armes nucléaires de portée moyenne en Europe. On l'avait, on ne l'a pas. Mais il faudrait en avoir un.
Concrètement, qu'est-ce qu'on a à leur donner ? Eux, ils disent, je veux que nos frontières soient sécurisées. Qu'est-ce que l'Europe a à leur donner ?
Mais leurs frontières sont sécurisées. En quoi ces frontières ne sont pas sécurisées ? C'est pas nous qui avons amassé des troupes dans la frontière. C'est pas nous qu'on a fait. C'est pas le monde occidental qui a fait la moindre provocation. Mais s'ils ont des soucis, et ils en ont, s'ils ont peur qu'on les encercle, comme ils disent, la seule façon de résoudre ça, c'est s'asseoir dans une table et en discuter. Et certainement, comme je vous disais, il y a des choses à discuter.
Mais quoi ?
Mais toute l'architecture de la sécurité nucléaire en Europe.
C'est quand même, vous convenez que c'est un terme assez flou.
Flou ? Non, flou. La façon dont on déploie des armes nucléaires en Europe, c'est pas flou du tout. Au contraire, on avait un schéma. Rappelez-vous, il y a un certain nombre d'années, quand la crise des missiles SS-20, qu'on a été dans un moment aussi très dangereux, les États-Unis se sont retirés de cet accord parce qu'ils croyaient que la Russie ne faisait pas sa part. Bon, il faut revoir de façon qu'on puisse avoir un moyen de contrôler quelles armes nucléaires sont déployées en Europe d'un côté et de l'autre. Quels sont les exercices militaires que chacun fait, de façon que tout le monde sache à quoi on joue. Et évidemment aussi discuter quel est le rôle de l'OTAN dans la défense collective de l'Europe. Et je comprends fort bien. Et si vous voulez discuter, si vous voulez négocier, il faut essayer de comprendre les raisons de l'autre. Et je pense que le président Macron, en disant qu'il faut discuter aussi de ce qu'on appelle en anglais la security concern, c'est-à-dire les préoccupations sécuritaires de la Russie, a ouvert la voie vers d'escalade, le début de négociation.
Mais au fond, Vladimir Poutine n'a-t-il pas déjà gagné son pari ? Au fond, l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN, non ?
Jamais. Ne dit jamais, jamais. Ah. Mais pour l'instant, c'est une question qui n'est pas sur la table. Le président, le chancelier allemand l'a bien rappelé. C'est une question qui n'est pas sur la table. Mais de notre côté, on ne peut pas dire à un pays indépendant et souverain qu'il ne pourra jamais faire quelque chose.
Ouais.
Pourquoi on dirait ça à l'Ukraine et pas à la Finlande ou à la Suède ?
Un mot, Josep Borrell, si vous le voulez bien, sur l'autre dossier très chaud du moment, le Mali. Emmanuel Macron doit annoncer dans les prochaines heures le retrait des forces françaises du pays après 9 ans de lutte contre les djihadistes et 53 soldats français tués au Sahel. Parlez-vous ce matin d'un échec de Barkhane, d'un échec pour la France et pour l'Europe dans la lutte antiterroriste ?
Si la France n'était pas allée au Mali, le Mali n'existerait pas. Il se serait désintégré. Et l'intervention française, et pas seulement française, parce qu'il y a des autres pays européens qui se sont engagés avec la France, a permis d'éviter l'extension sans contrôle des djihadismes dans toute la région.
Donc c'est pas un échec pour vous ?
Évidemment, non. On ne peut pas dire qu'on a réglé les problèmes. On ne peut pas dire, ça serait ridicule que je dise on a réglé le problème. Non, le problème, on n'a pas réglé. Le djihadisme continue à être là, mais vous savez, le djihadisme... C'est pas une pathologie de l'être humain. C'est pas non plus une plante qui pousse dans la nature. Ça répond à des circonstances socio-économiques. C'est un phénomène complexe. Il faut lutter contre le djihadisme, il faut lutter aussi contre les injustices sociales, contre les inégalités, contre la mauvaise gouvernance. Et ça, c'est aux Africains eux-mêmes de le faire, c'est pas nous, les Européens qui vont prendre sa place.
Alors, Josep Borrell, et ce sera ma dernière question, alors que vous apprêtez à accueillir demain le 6e sommet entre l'Union Européenne et l'Union Africaine, qu'en sera-t-il de la force européenne Takuba, de ces 900 militaires européens qui partageaient avec la France le fardeau sécuritaire au Mali ? Est-ce qu'ils vont se déployer autour, au Niger, ou ces forces européennes vont rentrer à la maison très rapidement, s'il vous plaît.
C'est pas une force européenne, c'est pas une force de l'Union européenne, c'est une coalition de la volonté, comme on dit, française et d'autres pays. C'est une décision des États membres qui participent dans cette force, de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Sans doute, ils vont pas quitter le Mali. On va pas quitter le Mali. On ne va pas quitter le Mali, mais on ne peut pas rester dans un pays si ses autorités ne le veulent pas.
Merci.
On peut se déployer dans la région, sans doute.
Merci beaucoup, Joseph Borrell. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Votre parole est rare. Merci d'avoir été avec nous en direct du Parlement européen de Strasbourg.
Et on fait un grand merci également aux équipes techniques de ce Parlement européen qui ont rendu possible ce duplex. France Inter.